إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد les bons comportements que doit avoir l'étudiant en sciences religieuses, celui qui va à la recherche de la science musulmane ou le savoir islamique. Ce thème se divise en deux. Le premier concerne le bon comportement vis-à-vis du ilm et du talab al-ilm. Al-ilm qu'on traduira par le savoir. Je ne sais pas si le terme science est adéquat pour le terme ilm. Quand on parle de la connaissance religieuse, je garderai le terme savoir. Car il paraît que le terme science ne s'emploie que pour les choses qu'on connaît par expérience. Alors que le savoir religieux, son origine, c'est la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas une expérience qu'on fait pour savoir est-ce que c'est une science ou pas. Wallahu a'lam. Donc, le bon comportement vis-à-vis de cette quête et de cette recherche du savoir est le bon comportement vis-à-vis de celui qui va à la quête du savoir, c'est-à-dire l'étudiant. Les bons comportements, on se doit de les apprendre avant les études religieuses pour pouvoir étudier convenablement avec le comportement demandé. Le talib al-ilm, donc l'étudiant en connaissance religieuse, apprend les bons comportements avant le savoir. Ceci, on le retrouve bien dans le hadith très célèbre de Jibril, alayhi salam. C'est le hadith où d'après Omar ibn al-Khattab, رضي الله عنه إنه دي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر حتى إذ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان رواه مسلم Donc, dans ce long hadith, d'après l'ange Jibril, alayhi salam, qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui nous dit, alors que nous étions assis en assemblée avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu à nous. Il était vêtu de blanc, le blanc éclaté, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace de poussière ni de saleté sur ses vêtements. Et ses poils ou ses cheveux étaient noirs. Il n'y avait aussi aucune trace de poussière. C'est une précision claire, puisqu'après il dit, alors que personne ne le connaît parmi nous. On ne voyait en lui aucune trace de voyage. Ce qui est étonnant, qu'un homme en pleine Arabie, dans un désert, dans la ville, un inconnu arrive avec des vêtements aussi propres et des cheveux d'une noirceur forte, c'est-à-dire il n'y a aucune trace ni de poussière ni de saleté sur lui. Il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sorte qu'il n'y avait personne entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il dit, il a mis ses genoux sur ses genoux et il a posé ses mains sur ses cuisses. Puis il dit, ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Il lui dit, c'est d'attester que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage. Il lui dit, tu dis vrai. Omar radiallahu anhu a dit, nous étions étonnés. Il pose des questions et il confirme la réponse. Puisqu'à l'origine, celui qui questionne est censé ne pas connaître la réponse. Il lui dit, informe-moi sur la foi. Il lui dit, c'est que tu crois en Allah, au jour dernier, donc toi tu crois en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Il lui dit, tu dis vrai. Il lui dit, informe-moi sur l'excellence dans l'adoration. L'excellence dans l'adoration. Il lui dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Car si toi tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Il lui dit, informe-moi sur l'heure. Il lui dit, le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Et lui dit, informe-moi sur ces signes. Il lui répondit, c'est lorsque la femme mettra au monde sa propre maîtresse et que tu vois les bédouins pieds nus qui sont les bergers des troupeaux se concurrencer dans les constructions, dans la hauteur des constructions. À la fin du hadith, il est dit, ثم لبثت أمليا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر ثم انطلق فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم. Puis il dit, cet homme est parti, nous sommes restés un laps de temps, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Omar, ô Omar, sais-tu qui est venu nous questionner? Omar répondit, Allah et son messager en savent plus. Il lui dit, c'est Jibril, et il est venu vous enseigner votre religion. Regardez comment Jibril alayhi salam s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une bonne manière. Les savants en ont déduit que les bons comportements précèdent le talab al-ilm. Car le fait de questionner le savant ou l'homme doté de savoir, ceci entre dans le talab al-ilm. Entre dans le talab al-ilm puisque tu cherches à savoir les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala sur telle question ou telle question. Et là, Jibril alayhi salam, tout ce qu'on nous rapporte de lui avant qu'il ait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre dans ce bon comportement qui est demandé. Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullahu ta'ala, c'est le grand imam et le grand savant d'Égypte. C'est un contemporain de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, le grand imam et le grand savant de Médine. Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, dit un jour à ses élèves, Antum ahwaj ila qalilin min al-adab, la antum ila qalilin min al-adabi ahwaj min kathirin min al-ilm. Il leur dit, vous êtes plus dans le besoin de peu de comportement demandé que beaucoup de savoir. Pourquoi? Parce que les bons comportements aident l'étudiant en connaissance religieuse à prendre profit et bénéficier du savoir et comment se comporter avec le professeur, avec le savant et avec les autres. Et même aujourd'hui, les spécialistes de l'éducation, ulama at-tarbiya, reconnaissent que l'éducation est plus importante que l'enseignement. Le premier bon comportement demandé, c'est la sincérité dans cette quête et dans cette recherche. Il ne cherche que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, cette personne perdra et n'aura pas profité de la bénédiction du savoir. Allah a révélé à son prophète alayhi salatu wa salam les cinq premiers versets de sourate Al-Alaq, qui sont les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Beaucoup traduisent par lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Vous avez déjà vu cette traduction là, lis au nom de ton Seigneur. Le problème, c'est que lorsqu'on dit lis, ça veut dire que la personne, elle sait lire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne savait pas lire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était illettré. Il ne savait ni lire, ni écrire. Mais le terme iqra, on l'emploie pour les deux cas. Pour la lecture et pour la récitation. Et la récitation, c'est quelque chose que tu connais aussi par cœur. Tu peux ne pas savoir lire, mais tu peux retenir ce qui se dit. Et tu peux le réciter après. C'est pour cela que la meilleure traduction qu'on pourrait donner à ce verbe-là, et pour être aussi en conformité avec la réalité du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de dire « récite au nom de ton Seigneur qui a créé ». Jusqu'au verset « Allama al-insana ma lam ya'lam » au cinquième verset, il a appris à l'homme, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah a lié la lecture ou la récitation pour son nom, Iqra bismi rabbika. Récite au nom de ton Seigneur. Tout est lié à Allah tabaraka wa ta'ala. Cet acte-là, il est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a créé. Et si tu appliques cela, certes, Allah est généreux. C'est pour ça qu'Allah il dit « Iqra wa rabbuka al-akram » Récite et ton Seigneur est le plus généreux. Et là, Allah t'enseignera ce que tu ne sais pas. Et il te donnera bien plus encore. Le savoir fait partie des bienfaits et des donations, des grandes donations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première chose à apprendre dans le savoir, c'est comme on vient de voir, l'éducation et le comportement. L'étudiant se doit d'être doté d'un bon comportement, doit être doté de pudeur et doit être doté et il doit être doté d'une éthique exemplaire. Sinon, le savoir ne lui sera pas bénéfique. Le bon comportement vis-à-vis de l'étudiant, c'est comme un bel habit que tu mets pour t'embellir. Tu t'embellis avec le bon comportement. Et l'homme n'atteindra réellement le savoir et ce qui est voulu véritablement du savoir que lorsqu'il sera doté d'un noble caractère et d'un bon comportement. Le bon comportement est la lumière pour le savoir. Et en plus de cela, vous savez que la sincérité, donc qui est demandée dans tout acte d'adoration, et qui est une condition de validité pour l'œuvre. Car comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala nous emploie le terme al-amal as-salih. C'est la bonne œuvre. Une œuvre n'est bonne, n'est appelée amal salih que lorsque elle comprend les deux conditions de validité. La première, c'est la mise en pratique de la ilaha illallah. La seconde, c'est la mise en pratique de Muhammad Rasulullah. Les deux attestations. Voilà les conditions de validité de toute œuvre. Vous le connaissez peut-être dans d'autres termes. C'est la première, c'est la sincérité, que l'œuvre soit faite sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et en faisant cela, on a mis en pratique la ilaha illallah. La seconde, que cette œuvre soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant cela, on a mis en pratique Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yarhamuk Allah. Allah nous dit dans le Coran concernant la sincérité, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement. À lui appartient la religion. De même qu'Allah nous dit, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la religion sincère? Deuxièmement, être constant dans les assemblées de ilm, du savoir, apprendre et se le rappeler. Bien sûr, le savoir ne vient pas en une seule assemblée ni en deux assemblées, mais cela demande du temps et beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Donc, il faut assister le plus possible aux assemblées de connaissances et de savoir pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de connaissances dans la religion. De même, cela ne suffit pas. Il faut apprendre. Apprendre. Et il faut se le rappeler. En plus de ça, les assemblées du savoir, ce sont les jardins du paradis. Vous connaissez le hadith, ma jalasa qawmun fi baytin min buyuti Allahi yatluna kitab Allah. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا غَشَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Donc dans ce hadith, il est à la fin du hadith, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas des gens qui se réunissent pour lire le Coran et étudier le Coran entre eux sans que la miséricorde ne descende sur eux, les anges les entourent jusqu'à la fin du hadith. Donc, là, on voit aussi la bénédiction de l'assemblée. Parfois, quelqu'un vient à ne pas assister à l'assemblée. Et il dit, c'est pas grave, c'est enregistré. Je prendrai la cassette, je prendrai le CD, je l'écouterai. Tayyib. Mais le CD ne prendra pas la baraka qu'on peut avoir dans l'assemblée avec. Subhanallah. Donc, il y a un bien dans le fait d'assister à l'assemblée qu'on ne pourra pas gagner autrement. Donc déjà ça, il ne faut pas l'oublier, surtout pour la personne qui fait ça sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حِلَقُ الْعِلْمِ. Il dit, lorsque vous passez par les jardins du paradis, assistez-y. Asseyez-vous pour y assister, pour y participer. Les compagnons demandèrent, mais que sont les jardins du paradis? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, ce sont les assemblées du savoir, où on y a apprentissage. Ce sont les assemblées du ilm. Les cercles de ilm, voilà les jardins du paradis. Les pieux prédécesseurs faisaient revivre le savoir en faisant revivre ces assemblées. Tu vois le talib al-ilm, l'étudiant, rahmukallah, venir tôt au cours pour ne rien rater. Al-imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahmahullahu ta'ala, a dit, إذا رأيت رجلا يجري في الطريق فاعلم إما هو مجنون أو صاحب حديث. Donc cet imam Shu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala dit, si tu vois un homme courir sur le chemin, sache que c'est soit un fou ou soit un étudiant dans le domaine du hadith. Tellement qu'il ne veut pas rater les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cours. Le fou ne sait pas pourquoi il court, alors que celui qui va à la recherche du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam court pour être à temps au cours, pour ne rien rater. Il faisait, les étudiants de l'époque, très attention au rendez-vous des savants, des professeurs, pour les cours. Et il ne s'absentait pas. Et lorsqu'un voulait partir, il en demandait la permission pour ne pas que le cheikh en pense du mal. Il en demandait la permission pour mettre à l'aise le professeur pour pas le nuire pendant son cours. Ceci est un fondement de base. Allah a montré que le musulman ne peut quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est en assemblée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après en avoir demandé la permission au prophète alayhi salatu wa sallam. Il doit, l'étudiant, assister au cours avec des vêtements propres. Lorsqu'on vient pour étudier le savoir, lorsqu'on vient à la mosquée pour assister aux prières, ou tout autre acte noble, on se doit de bien s'habiller avec les meilleurs de nos vêtements. Et on se doit de se parfumer et ne pas venir dans ces lieux avec des mauvaises odeurs pour ne pas nuire l'assemblée, pour ne pas nuire nos frères ou le professeur qui sont autour de nous, pour que ses frères ne trouvent en lui que ce qui fait qu'il l'aime, que ce qui est bon et bien. Donc il faut méditer sur la manière dont Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec des beaux habits et des bons habits, des bons cheveux et une bonne odeur, des vêtements très blancs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sales, des cheveux très noirs, il n'y a pas de poussière. On ne voit pas en lui les traces du voyageur, tu n'y trouves pas une odeur que tu détestes. Et il assista à l'assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encouragea pour que dans les assemblées des musulmans, qu'on ait des beaux habits et qu'on soit parfumé si possible. La salat en groupe, où normalement 5 fois par jour, on se retrouve dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on mange de l'ail ou de l'oignon. En général, ça c'est quand c'est cru. Ça lâche une odeur. La laine, elle a une mauvaise odeur. Pourquoi? Parce qu'il s'y trouve une mauvaise odeur. Et lorsqu'il trouvait quelqu'un qui en a mangé, et donc qui avait une mauvaise haleine, il le sortait de la mosquée et l'emmenait à Al-Baqiya, vers le cimetière de Al-Baqiya, qui est juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous imaginez ça, c'est des aliments qui sont autorisés, licites. Mais il n'est pas convenable de les manger, et surtout quand c'est cru, juste avant de venir à la mosquée, parce que la personne dégagera une mauvaise odeur. Que dire lorsque la mauvaise odeur provient de quelque chose qui est interdit, comme la cigarette ou autre? Que dire? Là, c'est des choses qui sont autorisées à l'origine. La salat du vendredi, la prière du vendredi, il a ordonné et recommandé le lavage du corps, le ghusl, avant d'y venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Le lavage du corps, le ghusl, est une obligation pour toute personne pubère. Pourquoi? Pour que tes frères ne trouvent en toi que ce qu'ils aiment. Parce que la mauvaise odeur nuit à la personne, ainsi que la mauvaise apparence. Elle fait plutôt fuir au lieu d'attirer. Troisièmement, que le talib al-ilm, donc l'étudiant dans le savoir religieux, n'ait pas honte de questionner. Car la question est ton chemin vers le savoir et l'apprentissage. Jibril alayhi salam est venu pour enseigner les musulmans. Et par quoi il commença? Par la question: informe-moi sur l'islam. Informe-moi sur la foi. Informe-moi sur l'excellence dans l'adoration. Informe-moi sur l'heure. Et sur les signes de l'heure. Donc, il est venu et il a directement questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était un enseignement pour tous les musulmans qui étaient présents. Donc, et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit bien, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre savoir alors qu'il n'a fait que questionner. Mais c'était des questions précises sur des thèmes précis. Et là-dedans, Jibril voulait l'apprentissage de la religion pour la communauté. Donc, le talib al-ilm doit questionner, doit demander, et qu'il n'ait pas honte. Car cette honte ou cette pudeur en ce moment, là, elle est mauvaise. Ce n'est pas une bonne honte ou une bonne pudeur, celle qui est demandée, ce n'est pas à ce moment-là. Celui qui croit que par pudeur, il ne questionne pas sur sa religion, il n'apprend pas les règles de l'islam, et en faisant cela, il ne sait même pas s'il est dans le halal ou dans le haram, s'il a omis quelque chose, s'il a oublié quelque chose, s'il a été négligent, et il croit qu'il fait bien. Plutôt, il attend que d'autres personnes demandent à sa place. Ça, ce n'est pas une bonne pudeur. Ce n'est pas celle-là la pudeur qui est demandée en islam. Mujahid, rahimahullah, dit « La yata'allamu l'ilm mustahyin ou mustakbir ». Mujahid, rahimahullah, dit, n'aura pas acquis le savoir celui qui a honte ou que la pudeur l'a empêché de questionner, d'apprendre, ou quelqu'un d'orgueilleux. Les gens qui ne questionnent pas, qui ne vont pas à la quête du savoir de leur religion, qui n'apprennent pas leur religion, c'est soit c'est quelqu'un qui a honte, et cela, c'est mauvais, ou soit c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Et ces deux-là n'apprendront pas. trois hommes sont venus dans une assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un est entré dans l'assemblée. Il est arrivé, il entre, il voit les compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les rejoint directement. Le deuxième s'est assis loin de l'assemblée par honte. Le deuxième, il est rentré, il les a vus en assemblée, il a préféré se mettre de côté. Mais il veut profiter de l'écoute de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne s'est pas approché. Et le troisième est parti. Il est entré, il a vu qu'ils étaient en assemblée, il s'en est allé. Ça, c'est ce qu'on vit nous, dans tous nos jours. Lorsqu'on vient, il y a une assemblée, soit on vient, on rentre dans le groupe, soit on se met sur le côté, ou soit on n'y assiste pas. Voilà. Ben, il y a eu ces cas-là. À l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, أما الأول فأقبل الله عليه. Concernant le premier, il s'est approché, Allah s'est rapproché de lui. وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه. Et le second a eu honte, a fait preuve de pudeur, Allah a eu honte de lui. وَأَمَّ الثَّالِثِ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ. Et le troisième s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Donc, il faut que tu prennes les devants lorsque tu veux poser une question dans ta recherche du savoir. N'aie pas honte ni peur de questionner pour apprendre et étudier ta religion. Aïcha, la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, disait, Rahimallahu nisa'a al-ansar, lam yamna'hunna al-haya min at-tafaqquhi fid-din. Aïcha, radiyallahu anha, disait, qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des ansar, aux femmes médinoises. La pudeur ne les a pas empêchés d'apprendre leur religion. Elles venaient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ce qui concerne leur intimité. Pourquoi? Parce qu'elles veulent savoir la loi d'Allah là-dessus. Et donc, quand elles voyaient, Aïcha, elles voyaient ce vouloir et cette volonté de ces femmes, elle a dit, Rahimallahu nisa al-ansar, lam yamna'hunna al-haya min at-tafaqquhi. Certaines personnes ne comprennent pas une chose dite dans un cours, une conférence, et elles restent assises sans en poser la question par honte. Shaitan, Iblis, le diable, le grand diable lui dit, si tu poses la question, les gens vont rire sur toi. Si tu poses la question, tu vas apparaître comme un ignorant devant eux. Si tu poses la question, ils vont penser du mal de toi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça trotte dans sa tête, et toutes ces suggestions sataniques, elles l'empêchent d'aller éclaircir un domaine ou une question qu'il n'a pas bien compris, qu'il n'a pas bien assimilé, ou d'apprendre sa religion. Alors le pauvre, il reste dans son ignorance sans poser de questions. Mais avant qu'il ne pose de questions, lorsque la personne, c'est bon, alhamdoulilah, il a compris qu'il faut que pour son apprentissage, il pose des questions, il doit comprendre et apprendre la manière de questionner. Donc, lorsqu'on questionne, c'est pour quelle raison ? C'est pour apprendre. Lorsqu'on questionne, ce n'est pas pour tester. Ce n'est pas pour embêter. Ce n'est pas pour passer du temps ou autre chose. Non, on questionne, c'est pour que j'apprenne, que j'en connaisse la réponse. Je questionne, C'est parce que je veux faire du bien à des gens et je sais qu'ils veulent poser cette question. Et donc, c'est pour un bien général. Il y a une utilité, il y a un bénéfice d'en poser la question. On ne pose pas des questions vaines alors qu'on en connaît la réponse. On ne pose pas une question pour savoir comment elle va être la réponse, pour discuter la réponse. Non, l'intention à l'origine n'est pas là. L'intention, c'est pour apprendre et pour que les gens apprennent. Certains posent des questions pour corrompre l'assemblée des gens et non pour apprendre. D'autres comprennent le sujet mais questionnent le shir pour l'embêter et démontrer que le shir ne sait pas. Pour vous dire que même lorsque les gens ont eu cette envie de questionner, mais d'où elle provient cette envie et quelle est l'intention qui est cachée derrière, Allah seul le sait. Donc c'est pour cela que celui qui est sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et qui a appris les bons comportements et les nobles caractères demandés, il se doit de savoir que lorsqu'il questionne, c'est pour apprendre et pour que les gens apprennent. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous en donne bien la règle lorsqu'il nous dit dans le Coran « Fas'alu ahla dhikri » In kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du rappel, aux gens du savoir, lorsque vous ne savez pas. Lorsque vous ne savez pas. C'est un ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, a divisé les gens en deux groupes. L'un est majoritaire, l'autre est minoritaire. Celui qui est majoritaire, c'est la masse des gens. Et leur fonction, c'est de questionner lorsqu'ils ne savent pas. L'autre partie, qui sont minoritaires, ce sont les gens dotés de savoir, les savants. Et eux, leur fonction, c'est de répondre lorsque les questions leur sont posées. Et donc, on voit bien là une chose importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un enseignement. On ne sait pas, on ne fait pas partie des gens qui peuvent faire des recherches, parce qu'on n'est pas doté de savoir, on n'est pas du groupe des savants. Notre devoir à nous, c'est de questionner. Et pas comme certaines personnes de la masse qui vont à imiter les savants en faisant eux-mêmes leurs propres recherches et émettre un avis ou une réponse à telle ou telle question. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ramène, nous dit concernant des gens qui ont répondu sans savoir, parce que à chacun sa fonction, les uns questionnent, les autres répondent. Lorsque un groupe de compagnons est revenu d'une bataille, l'un d'entre eux était blessé à sa tête. Le matin, il se lève et il est en état de janaba, de grande souillure. Et normalement, il doit faire quoi? Al-Rusul. Mais cet homme est blessé à la tête. Donc il dit à ceux qui sont autour de lui, est-ce que je peux faire le tayammum? Et ils lui ont dit non. Tu te dois de faire le rusul. Il les a écoutés. Il a fait le rusul et il en est mort. Lorsque ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit ce qui s'est passé. Le prophète alayhi salatu wa sallam, pris de colère, a dit qataluhu qatalahumullah ala sa'alu hina jahilu fa innama shifa'u al-'ay as-su'al wal-'ay huwa al-jahl fa innama shifa'u al-'ay. Le prophète sallam a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils n'ont pas su? Car le remède de l'ignorance, c'est de poser la question. Celui qui va à la recherche du savoir, qui acquiert du savoir, quel que soit le degré de ses savoirs, qu'il sache que c'est une donation d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous explique comme quoi la personne se doit tout le temps, bien sûr, de remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits comporte des piliers au nombre de trois. Il dit « Arkanu ash-shukri thalatha ». Donc les piliers du remerciement envers Allah tabaraka wa ta'ala comportent trois piliers. « Awwalan al-iqraru bin-ni'mati batinan ». Premièrement, c'est la reconnaissance de ce bienfait dans le fond intérieur de la personne. Déjà, dans notre cœur, dans notre fond intérieur, on reconnaît ce bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, shukru ni'mati zahiran. Deuxièmement, remercier ce bienfait d'Allah, cette donation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'apparence, par les paroles et par les œuvres. Et une des conséquences de ce remerciement des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est d'être en constance dans la droiture. Être là où Allah aime nous voir et ne pas être là où Allah ne veut pas nous voir. Être dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, loin de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, shukru musdiha wa huwa Allah. Troisièmement, de remercier le véritable donateur de ce bienfait et de cette donation qui est Allah subhanahu wa ta'ala. فمن قام بهذه الأركان فقد استكمل الشكر. Celui qui a accompli ce remerciement avec ces trois piliers-là aura fait le remerciement qui est demandé complètement. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Yurzaqu al-basira wal-ilm hatta ya'lama haqqa Allahi wa haqqa 'ibadihi. وَيُعْطِي لِكُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Allah lui donne la clairvoyance dans le savoir jusqu'à connaître le droit d'Allah et le droit de ses serviteurs et qu'il donne à chacun son dû. وَأَنَّ الْخَيْرِيَّةِ لَهَا سَبِيلٌ وَاحِدٌ هُوَ الْفِقْهُ فِي دِينِ اللَّهِ. Et que le bien, pour l'atteindre, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la compréhension et la connaissance de la religion d'Allah. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Les gens sont de deux sortes. Ceux à qui a été donnée la compréhension, ils comprennent la religion, ils comprennent ce qui est voulu. Et ceux à qui cette compréhension n'a pas été donnée. Ceux à qui elle a été donnée, Allah leur a voulu du bien. Ceux à qui elle n'a pas été donnée, Allah ne leur a pas voulu du bien. Et le chemin pour la compréhension de la religion, c'est l'ilm, c'est le savoir. Et les limites du savoir sont la connaissance du livre d'Allah, Al-Qur'an, et la connaissance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux choses-là, Al-Qur'an et As-Sunnah, sont la révélation. Car la sunna vient à expliquer, à commenter le Qur'an. Et Ali radiallahu anhu, lorsqu'il nous a parlé de Comment essuyer sur les chaussettes ou autres vêtements qu'on met pour envelopper le pied? Al-Khufayn ou Al-Jawrabayn. Il dit, puisque la sunna du prophète, ça veut qu'on essuie le dessus, le haut du pied, et non pas le dessous. Si on y réfléchit, ce qui vient à toucher le sol, et ce qui serait sale en priorité, c'est le dessous. La logique voudrait que normalement, si on a à nettoyer une partie, c'est le dessous. Mais nous, on se contente de ce qui nous a été rapporté, on essuie le dessus. Ali radiallahu anhu nous dit, لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الأسفل أولى لكن هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو كما قال رضي الله تعالى عنه. Il dit, si la religion était due au raisonnement, c'était du raisonnement, on n'en revient qu'à la tête, eh ben le fait d'essuyer le dessous serait plus logique, plus prioritaire. Mais c'est comme ça que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire. Il a laissé tomber son raisonnement et il s'est soumis à la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà quelques points concernant l'importance du comportement dans la quête du savoir. Nous allons voir maintenant, inshallah, quelques ouvrages recommandés, conseillés pour celui qui va à la quête et à la recherche du savoir, et ceci selon les thèmes qu'on étudie. La première chose que normalement l'étudiant en savoir religieux doit apprendre, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. De par sa lecture, son apprentissage, sa compréhension et sa mise en pratique. Donc, apprendre le Coran et le mettre en pratique. Et prêcher à cela. Et de le comprendre d'une compréhension qui soit conforme à celle des pieux prédécesseurs. Il est rapporté que les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, apprenaient 10 versets. Et ils ne s'attaquaient pas à d'autres versets tant qu'ils ne les ont pas appris, compris et mis en pratique. En faisant cela, ils apprenaient la foi et la mise en pratique en même temps. Puis, une fois terminé, ils s'attaquaient à 10 autres versets. La qualité et non pas la quantité. Lorsqu'ils connaissaient, ils connaissaient la chose convenablement. Al-Qur'an, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Elle émane de lui, cette parole, et vers lui, elle retournera. Car, il est rapporté qu'à la fin des temps, le Coran sera levé. On n'aura plus trace de Coran sur papier ou autre, ni dans les poitrines des hommes. Ça, c'est dans la fin des temps. Et c'est pour cela que les ulama, lorsqu'ils parlent de Coran, ils disent « Al-Qur'an ou kalamullah ghayr makhlouq minhu bada wa ilayhi ya'oud » Le Coran est la parole d'Allah incréée. De lui, il provient et vers lui, il retournera. Al-Qur'an, sa lecture à elle seule est un acte d'adoration. Une chose qui est donnée à la parole du Créateur qui n'est pas donnée à la parole de la créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana » والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وَمِيمٌ حَرْفٌ. Celui qui lit une lettre du Coran aura une récompense. La récompense est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Pour chaque lettre du Coran, on gagne 10 hasanat pour la lecture du Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et il l'enseigne. As-sunna as-sahiha, d'apprendre la sunna authentique, les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Ici, lorsqu'on emploie le terme as-sunnah, hein, il est voulu le sens original qui est la voie, le chemin. Littéralement, c'est le sens du terme as-sunnah. C'est le chemin et la voie. Puis, on a gardé ce terme-là pour parler de la tradition et pour parler des hadiths qui sont le chemin et la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, le terme sunnah, on sous-entend là-dessus, et ça c'est plutôt dans le domaine du fiqh, chez les fuqaha, le sens de conseiller, recommander. Et beaucoup de vieux, des anciens, ils ont cette compréhension du terme sunnah. Donc parfois, quand ils entendent quelqu'un employer ce terme-là, eux, pour eux, dans leur tête, c'est quoi qui vient? Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ils ont cette compréhension du terme, mais c'est un sens technique chez les fuqaha qu'ils l'ont employé pour, à la place du terme mustahab, qui est le terme conseillé. Sinon, lorsqu'on retourne au texte, on se doit de traduire, d'expliquer, de comprendre le terme comme il était compris au moment où il était employé. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à l'époque des quatre imams, qu'on verra, inshallah, une brève biographie d'eux, le terme sunna ne voulait pas dire recommander. C'est plus tard, chez les fuqaha, dans le domaine du fiqh, qu'ils ont donné un sens technique. C'est pour cela qu'il faut bien vérifier le sens littéral, original d'un terme, puis le sens technique d'un terme, pour ne pas confondre et pour bien comprendre ce que veut l'auteur par ces termes-là. C'est très important, on y reviendra sur ce point-là. Donc ici, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sa sunna qu'on retrouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths englobent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les agissements, les actes, les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les approbations du prophète alayhi salatu wa salam. Une parole est dite en sa présence, un acte est accompli en sa présence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il loue, il vante cette parole ou cet acte, ou il en dit du bien, ou au minimum il se taise et il ne reprend pas la personne. Dans tous ces cas-là, ça rentre dans la sunna, ça devient une approbation, car pour un prophète, il n'est pas permis de retarder l'enseignement. Donc, ce n'est pas comme nous, par exemple, si on voit un agissement, on pourrait dire, plus tard je lui dirai que c'est pas bien de faire ça. Plus tard je lui dirai. Ça, peut-être que nous, on pourrait. Mais pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui est pas permis de retarder, hein, de reprendre la personne lorsqu'elle a commis une quelconque erreur. S'il a laissé faire, c'est que c'est accepté. Donc, c'est approuvé par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, as-sunna sahiha, qui est ce qui vient à éclaircir, à détailler, à expliquer le Coran. La mémorisation de la sunna se fait par la mémorisation des textes, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'étude des chaînes de narrateurs et des textes en eux-mêmes, et la distinction, l'étude de la distinction entre ce qui est authentique, accepté, de ce qui est faible et non accepté. Et aussi, dans la prise de défense de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la réfutation et le rejet des ambiguïtés hein, des gens de l'innovation concernant la sunna. Puis, après, la sunna vient les paroles et les avis des savants. Car les savants sont ceux qui sont très versés dans la connaissance et ils ont, parmi tant d'autres, les règles de la législation et la connaissance totale de cette législation, ce qu'on ne retrouve pas chez les autres. C'est pour cela qu'on a besoin, pour comprendre le livre d'Allah, comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'aider avec les paroles, les avis, les opinions des savants. Pourquoi je disais tout à l'heure que je traduisais par le terme savoir? Parce que celui qui a le savoir, on l'appelle savant. Celui qui a la science, on l'appelle scientifique. Subhanallah. Donc, je suis pas très versé dans les vocabulaires, mais il faut bien y réfléchir lorsqu'on emploie des termes pour ne pas se tromper. Donc, il nous faut des ouvrages pour étudier chez tel savant ou chez tel professeur les connaissances religieuses. Il y a un certain comportement à avoir vis-à-vis ou à l'encontre du livre, avec le livre. Il faut connaître le thème du livre. Il est dommage que parfois les gens ne savent pas le livre, quel est véritablement son thème. Ils croient que c'est. Ou ils lisent un titre et ils s'imaginent que le thème c'est ce qui leur vient à la tête. Non, on se renseigne, quel livre, quel est le thème de ce livre? Est-ce que c'est un livre dans la connaissance du Coran? C'est un tafsir du Coran? C'est un livre dans la grammaire? C'est un livre dans le fiqh? C'est un livre dans quel domaine? Il faut déjà le savoir. Un livre, on sait quel est le thème inclus dedans. Il faut connaître les termes techniques employés dans l'ouvrage. Les termes techniques employés dans l'ouvrage, c'est très important. On est dans les fondements du fiqh, il faut savoir qu'est-ce qu'ils entendent par les termes. On est dans le domaine du fiqh, il faut savoir qu'est-ce qui est voulu par tel terme ou tel terme. Souvent, ces explications-là et ces détails, on les retrouve dans l'introduction du livre. L'auteur explique ce qu'il entend par des initiales, parfois il y a des initiales, par tel terme ou tel terme, parce que là, si quelqu'un va apprendre un dictionnaire et il se met à traduire littéralement, eh ben, on a beaucoup de chances de se retrouver avec un autre livre en français que le livre qui est en arabe. Subhanallah. Et c'est pour cela que les savants disent que pour le traducteur, ça ne lui suffit pas de connaître les deux langues. Parce que c'est normal. Il faut connaître la langue de laquelle on va traduire et la langue vers laquelle on va traduire. Yarhamukallah. Ça, c'est un point. Mais le deuxième point, c'est d'avoir un minimum de connaissances religieuses, car on est dans le domaine religieux. Et on n'est plus dans le domaine littéral, seulement. Donc, pour savoir quel sens a ce terme-là dans la religion, quel sens a ce terme-là dans tel thème ou tel thème. Parce que dans un dictionnaire en général, vous avez le sens original, le sens littéral, qui est en dehors des sens religieux des termes. Donnez quelques exemples. On a vu le terme sunna. Vous prenez Bulughul Maram. C'est un livre de hadith. C'est des hadiths concernant les actes d'adoration, l'ibadat. Tayyib. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qui est l'auteur du livre, il vous ramène un hadith. Et il vous le dit, Rawahu al-Jama'a. Rawahu al-Jama'a. Rapporté, on va le traduire. Rapporté par le groupe. Ça veut dire quoi? C'est qui le groupe? Le traducteur, il a traduit. Mais tu vas à l'introduction, l'auteur il dit, lorsque je dis Al-Jama'a, je sous-entends par là Al-Imam Ahmed dans son Musnad et les six auteurs des livres de hadith connus. Al-Bukhari wa Muslim dans leurs deux authentiques, Abu Daoud wa Tirmidhi al-Nasai et Ibn Majah dans leur Sunan. Lorsque les sept ont rapporté ce hadith, au lieu de dire donner tous leurs noms, je dis Rawahu Al-Jama'a. C'est important de savoir cela. Par exemple, un sens technique, muttafaqun alayh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui vont vous le traduire par unanimement reconnu authentique. Et ils mettent parfois les initiales URA. C'est vrai que c'est reconnu authentique, mais les ulama, lorsqu'ils employaient ce terme-là, ce n'était pas pour ça. Est-ce que ça veut dire que tout le monde l'a rapporté? Tous les rapporteurs de hadith l'ont rapporté? Non. Ça veut dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est pour dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rawahu al-Shaykhan. On va traduire. Les deux shirs l'ont rapporté. Ça veut dire quoi? C'est qui les deux shirs? Ça veut dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ainsi de suite. C'est important de connaître le sens des termes dans le livre qu'on étudie. Tayyib. Le thème de l'aqida, ou l'iman, ou l'tawhid, le terme du dogme, du credo, de la foi. Parmi les ouvrages, c'est à titre d'exemple, mais c'est les ouvrages que les ulama contemporains conseillent, recommandent à l'étudiant dans le savoir religieux. Le premier, c'est Al-Usul al-Thalatha. Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de base. Al-Qawa'id al-Arba, les quatre règles de base. Kashf al-Shubuhat et Al-Tawhid. Et ces quatre livres-là, qu'on vient de voir, leur auteur, c'est Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Puis, Al-Aqida Al-Wasitiyya Wal-Hamawiyya Wal-Tadamuriyya. Et ces trois ouvrages, ils sont de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu Ta'ala. Puis Al-Aqida Al-Tahawiyya L'Imam Al-Tahawi. Le commentaire de l'Aqida Al-Tahawiyya qui s'appelle Sharh Al-Aqida Al-Tahawiyya l'Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid de Abd al-Rahman Ibn Hassan al-Sheikh. Al-Sheikh, c'est-à-dire il fait partie de la famille du Sheikh. Al, ça veut dire la famille de, comme on dit Ali Imran, la sourate Ali Imran, la famille de Imran. Al-Sheikh, la famille du Sheikh, c'est-à-dire c'est la famille de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tout ce que vous voyez à la fin, il y a Al-Sheikh, c'est des descendants de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et lui en l'occurrence, c'est son petit-fils, Abdul Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala. Aussi, parmi les ouvrages conseillés, Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, c'est un petit ouvrage où il y a des versets et des hadiths dans ce domaine, de Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wassabi. Ça, c'est un contemporain, Hafidhahullah, qui est au Yémen. Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wassabi. Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith, l'Imam al-Sabuni, un ancien. Dans le domaine du hadith, Al-Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Bien qu'en vérité, il y en ait 42. Il y en ait 42. Mais ça s'appelle Al-Arba'oun al-Nawawiyya. Umdatul Ahkam lil-imam al-Maqdisi. C'est un livre de hadith, mais qui concerne les hadiths concernant les règles de l'islam, les règles de pratique de l'islam, comme as-salat, as-zakat, as-sawm, al-hajj, et ainsi de suite. Dans le domaine de l'ibadat, des actes d'adoration et du relationnel qu'on appelle al-mu'amalat. Donc c'est un ouvrage, c'est les dalils concernant ces règles-là, mais l'auteur a voulu rassembler que des hadiths qu'on retrouve dans le Bukhari et Muslim. Et en règle générale, il a respecté sa volonté, bien que parfois il est sorti de cette volonté-là. Donc, en Umdatul Ahkam, l'imam Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, ça vient de Bayt al-Maqdis. Ça vient de Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis, c'est le Quds. C'est Jérusalem. Et un habitant de Jérusalem, en arabe, on l'appelle Maqdisi. Un habitant de Jérusalem, on l'appelle Maqdisi. Et ça, ce sont des grands savants. C'est une famille de savants du 6e et 7e siècle de l'Égypte qui ont habité à Damas. Parce qu'à l'époque, il y avait eu... parce que c'est du 5e et 6e siècle de l'Égypte. Il y avait eu les croisades. Et donc, il y avait eu la prise de Jérusalem par les Européens, par les chrétiens, les croisés. Et donc, il y en a beaucoup qui avaient quitté Jérusalem. Et cette famille-là s'est retrouvée donc à Damas. Et c'était des grands savants de Damas. Et il s'appelle Al-Maqdisi. Tayyib. Bulughul Maram. Lil-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Rahimahullah ta'ala. Rahimahullah al-Jami'a. Bulughul Maram, c'est le même thème que Umdatul Ahkam. Sauf que dans Bulughul Maram, c'est mélangé. Ce n'est pas que le Bukhari est musulman. Et dedans, il y a parfois des hadiths qui sont daïfs, qui sont faibles. Et parfois, le Hafidh ibn Hajar, il les emploie lui-même. Et parmi, comme je vous disais, les termes, c'est important. Vous lisez un livre. Il est dit, قال شيخ الإسلام. Et on te donne directement la phrase. Le Cheikh l'Islam a dit. Donc, vous allez traduire, le Cheikh de l'Islam a dit. Oui, mais c'est qui cet homme? Les ulama te disent, lorsqu'on emploie ce terme-là, sans citer le nom, il est voulu par là, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Si c'est quelqu'un d'autre, on le citera. Son nom. Lorsqu'on dit, قال الحافظ, le Hafiz a dit, il est voulu par là, Ibn Hajar al-Asqalani. Si c'est quelqu'un d'autre, on le citera, son nom. Si on ne le cite pas, c'est que c'est Ibn Hajar qui est voulu. Tellement que ce surnom leur a été donné et tellement qu'ils le méritent, on n'a plus besoin de citer leur propre nom lorsque le surnom est cité. Et le commentaire de Bulugh al-Maram qui s'appelle Subul al-Salam de l'imam al-San'ani rahimahullahu ta'ala. Muntaqa al-Akhbar. Vous connaissez ce livre? Muntaqa al-Akhbar. Beaucoup connaissent son commentaire, mais ils ne connaissent pas l'original du commentaire, qui est un ouvrage de hadith avant qu'il y ait le commentaire qui est venu bien plus tard. Muntaqa al-Akhbar, l'Ibn Taymiyyah al-Jadd. Vous connaissez Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? C'est son grand-père. Alors on dit Ibn Taymiyyah le grand-père. Muntaqa al-Akhbar, l'Ibn Taymiyyah al-Jadd. Rahimahullah. Et son commentaire, Nailul Autar, Sharh Muntaqa al-Akhbar, l'imam al-Shawkani, Rahimahullah. Et aussi, Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, c'est, tous les livres sont excellents, mais c'est aussi un excellent livre où presque tous les hadiths sont authentiques dedans. Ceux qui ne sont pas authentiques, ils ne sont pas beaucoup. Il y a presque 2000 hadiths. C'est quelques dizaines qui ne sont pas, que certains ulama ont dit qu'ils ne sont pas authentiques. La majorité du livre, et c'est un excellent ouvrage. Et le commentaire des 40 hadiths de Nawawi, le grand commentaire connu, Jami'ul Ulumi wal Hikam, lil Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala, c'est un grand volume, où dedans il a commenté les 42 hadiths de l'imam Nawawi, et il y a rajouté 8 hadiths pour qu'en finalité il y ait le commentaire de 50 hadiths. Al-Kutub al-Sitta, les 6 livres connus, les plus importants, Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan ou Jami' al-Tirmidhi. Mustalah al-Hadith, la science du Hadith, les règles concernant le Hadith. Nukhbatul Fikr, Nukhbatu al-Fikr, l'Ibn Hajar al-Asqalani. البيقونية مع التعليقات الأثرية لعلي حسن الحلبي تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان الباعث الحثيث للعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. الباعث الحثيث est un commentaire de اختصار علوم الحديث du commentateur du Coran connu ابن كثير رحمه الله تعالى. فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي رحمه الله. الفقه, et Inch'Allah, on va le voir en détail dans d'autres cours. Donc, on verra même, on aura un cours spécialement sur l'explication du terme al-fiqh. Et s'il est voulu, les ouvrages concernant la mise en pratique des règles religieuses, comme as-salat, as-zakat, as-sawm, al-hajj, et ainsi de suite. Donc, adab al-mashi ila as-salah. De Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Zad al-Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni' lil-Hajjawi. Ar-Rawd al-Murbi' sharh Zad al-Mustaqni' li-Mansur al-Bahuti. Umdat al-Fiqh li-Ibn Qudamah al-Maqdisi. Fiqh al-Sunnah de Sayyid Sabiq. Et on y rajoute aussi تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى الروضة الندية لصديق حسن خان رحمه الله نيل الأوتار للشوكاني رحمه الله إن شاء الله on verra lorsqu'on parlera des quatre imams dans chaque madhhab les ouvrages conseillés pour celui qui va apprendre selon un madhhab. Et on parlera sur cette question-là, Inch'Allah, en son temps. Al-Fara'id. Vous savez qu'est-ce que c'est, le Al-Fara'id? C'est les obligations. Mais ici, c'est un thème. Donc, logiquement, ce n'est pas les obligations qu'on cherche par ce mot-là. Al-Fara'id, c'est le nom donné à la connaissance de l'héritage. La science de l'héritage, on l'appelle ilm al-Fara'id. Et on l'appelle aussi al-mawarith, al-mirath. Ça, c'est le thème de l'héritage. Et parmi les terminologies de ce mot-là, il y a al-fara'id. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous dire que le plus connaisseur dans le domaine de l'héritage parmi les compagnons, c'est Zayd, il a dit quoi? Il a dit afradukum Zayd. Afradukum Zayd. Zayd est le plus connaisseur parmi vous dans le domaine de l'héritage. Et il y a Matnu al-Ruhabiyya de Ruhabi, Matnu al-Burhaniyya de Muhammad al-Burhani, Al-Tafsir, Tafsir, le commentaire du Coran. On a Muqaddimatun fi usul al-Tafsir d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Une introduction pour les bases ou les fondements du Tafsir. De Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tafsir al-Qur'an al-Azim l'Ibn Kathir. Tafsir al-Karim al-Rahman في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، تفسير الإمام البغوي رحمه الله، الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. Ça c'est sur les causes de la révélation. النحو la grammaire. متن الأجرومية. ألفية ابن مالك. مغني اللبيب لابن هشام. Et un ouvrage qui est plus contemporain, جامع الدروس العربية لمصطفى الغلايني. النحو, ce sont les règles grammaticales. C'est pour qu'on sache la terminologie, la petite voyelle donnée à la fin de chaque mot selon l'emplacement du mot dans la phrase. Pour ne pas se tromper. On sait quand est-ce qu'on met une dhamma, on sait quand est-ce qu'on met une fatha, on sait quand est-ce qu'on met une kasra. Et ainsi de suite. On sait conjuguer les verbes et ainsi de suite. La logique veut que ceci est pour des gens qui ont du vocabulaire arabe. Quelqu'un qui n'a pas de vocabulaire arabe, il faut qu'il apprenne le vocabulaire arabe. On apprend une règle grammaticale. Pour savoir si ça a bien été appris et assimilé, il faut donner des exercices. Parmi les exercices, former 5 phrases où il y a tel verbe. Former 10 phrases où le mot est au singulier. Former 8 phrases où tel mot il est sujet. Et ainsi de suite. Mais comment le demander à des gens qui n'ont aucun vocabulaire arabe? C'est impossible. C'est une erreur que quelqu'un qui n'a pas de vocabulaire arabe d'entame directement la grammaire. La grammaire, ce sont les enfants dans les pays arabes. Ils sont nés dans un monde arabe. Ils savent, ils ont les bases de l'arabe. Lorsqu'ils sont en classe, seulement il faut leur corriger leur façon de parler, leur apprendre comment on formule. Donc, ils apprennent la grammaire. La grammaire. C'est comme pour quelqu'un qui ne connaît aucun mot français. Et tu commences à lui apprendre qu'est-ce qu'un attribut, qu'est-ce qu'un épithète, qu'est-ce qu'un COD, qu'est-ce qu'un COI. Il ne sait même pas un mot en français. Subhanallah. C'est une erreur. C'est pour ça que les meilleurs ouvrages pour des gens qui n'ont pas l'arabe, ce sont les ouvrages faits pour les gens non arabophones. Comme par exemple, la méthode de Médine, le 1, le 2 et ainsi de suite. Où on apprend des mots, il faut les apprendre par cœur. Maintenant on sait comment on appelle ça, on sait comment on appelle ça, on sait comment on appelle ça, et ainsi de suite. On a des mots. Maintenant, quand on a un certain vocabulaire, on apprend des règles grammaticales au fur et à mesure, et la règle grammaticale, on essaye de la mettre en pratique avec le vocabulaire qu'on a. Si on n'a pas de vocabulaire, on ne peut pas. As-sira, la vie, la biographie, et ici il est voulu, la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On a par Zadul Ma'ad, l'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Certains seraient étonnés qu'on cite ce livre. Mais Zadul Ma'ad, c'est du fiqh de la sirah. C'est la compréhension de la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on peut tirer comme règle islamique d'après la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dit pas Zadul Mi'ad, comme certains disent. C'est une erreur. Parce que Al-Mi'ad ne s'écrit pas comme Al-Ma'ad. Al-Ma'ad, après le mim, directement on a le Ayn. Alors qu'Al-Mi'ad, entre le mim et le Ayn, il y a un Ya. Et ça n'a pas le même sens. Donc, Zadu Al-Ma'ma. Le mim, il a un fatha. Zadu Al-Ma'ad fi hadi khayri al-ibad lil-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. السيرة النبوية, la biographie prophétique de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. الروض الأنف للسهيلي, rahimahullah. Et il y en a bien d'autres. Mais à titre d'exemple, je vous cite ces livres-là que les ulama ont cités. Usul al-fiqh, les fondements du fiqh, de la législation. Al-usul min ilm al-usul, le Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Il s'appelle pas Salih al-Uthaymin. Salih, c'est le prénom de son père. Cheikh al-Uthaymin, il s'appelle Muhammad. Hein, il y en a quand ils écrivent en français, ils mettent Salah. Après le lam, ils mettent un A. Après le L, ils mettent un A. Non. On a le prénom Salah. Mais lui, son père, il s'appelle Salih. Salih. C'est important de bien prononcer les prénoms. Donc, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, al-usul min ilm al-usul. Hadiyat al-sultan ila muslimi bilad al-yaban. Le Muhammad Sultan al-Ma'soumi. Hadiyat al-sultan, le cadeau de sultan, parce que c'est son nom, il s'appelle Muhammad Sultan. Pour les musulmans du Japon. Pour les musulmans, al-Yaban, en arabe, c'est le Japon. Ce livre, il date de près de 70 ans ou 80 ans. Et, vite fait, la raison, c'est qu'il y a des musulmans qui sont arrivés là-bas, et ils ont trouvé une querelle à Tokyo entre les musulmans. Parce que ceux qui leur ont fait da'wah, il y avait des shafi'ites et il y avait des hanafites. Et chacun était à fond dans son madhhab, et il ne reconnaissait que son propre madhhab, sa propre école. Donc, il disait non, tu ne vas pas vers telle école, tu vas vers telle école. Et il y en a, ils ont gardé quitté l'islam. On comprend pas, là. On pensait que tout le monde était uni. Vous nous dites de faire comme ça, les autres nous disent de faire comme ça, vous nous dites de suivre là, les autres nous disent, il y en a, ils ont quitté. Quels certains musulmans, quand lorsqu'ils ont vu ça, ils ont contacté un cheikh, Mohammed Sultan al-Ma'soumi. C'est un cheikh qui est d'origine d'Ouzbékistan, qui a fini sa vie à la Mecque et il était professeur à la Mecque. Pour anecdote, son ouvrage là, c'est lui-même dans les années 40 qui en a fait cadeau à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il l'a rencontré et c'est lui qui lui a donné cet ouvrage là dans les années 40. Et Cheikh Al-Ma'soumi, rahimahullah, il a écrit un ouvrage où dedans il explique les fondements de le faire de la religion et qu'est-ce qui est réellement demandé à suivre dans la religion. Et il appelait ça le cadeau de sultan pour les musulmans du Japon. Hadiyat al-sultan ila muslimi bilad al-yaban. Al-risala, le grand ouvrage al-risala de l'imam al-shafi'i, rahimahullah. Al-muwafaqat lil-imam al-shatibi, rahimahullah. Al-tajwid, les règles de lecture du Coran. Hein, et l'ouvrage que j'ai mis, il y en a plein des ouvrages dans ce domaine-là. Haqq al-tilawa de Husni Sheikh Uthman wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.